VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition spéciale du 3 novembre 2020 sur les élections américaines. Eric Manirakiza en votre compagnie. Des dizaines de millions d'Américains se rendent aujourd'hui aux urnes pour choisir leur futur président. Près de 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, en personne ou par correspondance. Dans un instant, nous retrouvons nos envoyés spéciaux sur le terrain. Nous aurons également les témoignages de certains électeurs ainsi que nos analystes. Les Américains votent depuis ce matin, un scrutin qui doit notamment départager le président Donald Trump et l'ancien vice-président Joe Biden. Les électeurs sont aussi appelés à renouveler pour 6 ans 35 des 100 sièges du Sénat. Il se tient aussi les élections à la Chambre des représentants, dont 435 sièges sont en jeu. À Arlington, en Virginie, Arzuma Compaoré est allé suivre le déroulement du scrutin.
À l'instar de tous les autres bureaux de vote, c'est dès 6 heures du matin que la bibliothèque centrale d'Arlington a ouvert ses portes aux électeurs américains. Une ligne d'une quarantaine de personnes attendait déjà pour exprimer leur choix, mais il faut dire que l'affluence depuis lors a considérablement ralenti. Seuls, en famille ou entre amis, les votants arrivent de façon sporadique. Jusque-là, selon les chiffres que nous avons obtenus des officiels sur place, environ 300 personnes ont voté ici à la mi-journée. Un peu plus tôt, nous avons pu parler à un couple d'amis, l'un camerounais d'origine, l'autre iranienne d'origine. Tous deux chérissent leur amitié vieille d'une vingtaine d'années, malgré leur choix divergent de candidat. Pour Lily Raseki, qui a voté par anticipation il y a 3 jours, Trump est un danger pour l'Amérique. Elle dit que plusieurs membres de sa famille ont été infectés par le nouveau coronavirus et qu'un d'entre eux en est même mort. Pour elle, seul Joe Biden peut empêcher que plus d'Américains ne succombent à ce mal. C'est pourquoi elle a voté pour lui. À côté d'elle, son grand ami Jocelyn Chakunte, qui est un pro-Trump, dit qu'au-delà de ses politiques, c'est l'homme même qui l'aime. Je vous propose de l'écouter.
Mais le candidat Trump, c'est une personne qui est très facile à écouter et qui est bien à écouter. Et on peut d'abord dire entertaining, c'est-à-dire il est... Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je peux dire qu'il est amusant ou bien s'il est drôle en quelque sorte. Oui, c'est une personne que tu veux avoir autour de toi parce que il raconte des histoires, il te fait rire et il te donne de l'espoir. Donc c'est ça. Et puis aussi, il parle comme un Africain en fait. Il agit même comme un Africain, vous voyez. Parce que si tu parles comme un Africain, tu agis comme un Africain et tu fonctionnes un peu comme un Africain, tu es un Africain. Par exemple, il parle avec hyperbole. C'est-à-dire qu'un Africain ne te dira jamais qu'il, disons par exemple, il conduit sur l'autoroute et il dit que je conduisais à une vitesse de 60 km par heure. Un Africain va te dire je conduisais à 1 million de kilomètres par heure. Mais tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas une voiture qui conduit à 1 million de kilomètres par heure. Mais quand un Africain exagère de cette manière, c'est pour comprendre qu'il conduisait très 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 vite. Et c'est un peu ça qui me plaît dans Trump, parce que il exagère pour faire un point, pas pour essayer de divertir, ou bien pas pour essayer de cacher la vérité, mais pour faire un point. Et ça c'est assez drôle. Ça me plaît dans ce candidat. Et puis aussi c'est un homme d'action, comme on dit, un man of action. Beaucoup de gens parlent de choses, oui, on fera ceci, on fera cela, oui, je veux aussi ceci, je veux aussi cela, mais ils veulent tout en même temps. Mais à un moment, dans la vie, on ne peut pas tout avoir en même temps, et à un moment, il faut bien trancher. Et il tranche, et il prend une décision. Et c'est un homme d'action, et ça, c'est vraiment merveilleux qu'on puisse avoir ça, un politicien comme cela. Oui.
Nous restons dans la région de Washington. Nathalie Barge a recueilli la réaction du docteur Sona Konaté, américaine d'origine guinéenne, à Clarksburg, dans le Maryland, installée aux États-Unis depuis 17 ans.
J'ai déjà voté depuis un bon bout de temps, peut-être depuis 6 semaines, j'ai déjà voté. Ces élections ont un enjeu très, très particulier, tout particulier, je pense, pour le monde entier et particulièrement pour moi. je ne voulais pas prendre de risques et ne pas pouvoir voter le jour des élections. C'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de voter par courrier et ce que j'ai fait avec ma famille.
Est-ce que vous aviez déjà voté par courrier auparavant ou est-ce que c'est la première fois?
Jamais. Et d'ailleurs, je ne suis pas, comme on dit, une fan du vote par courrier parce que c'est pas seulement le vote, en fait, c'est le fait d'aller voter personnellement, rencontrer les gens dans la ligne d'attente. Tout ça, ça fait partie pour moi du plaisir aussi d'exercer mon droit. Voilà, c'était vraiment tout nouveau pour moi, tout particulier. Et ce n'est que hier, en fait, que j'ai reçu la confirmation par courrier électronique que mon vote a été compté. Et là, je suis vraiment satisfaite. Et là, maintenant, je sais que je serai parmi tous ces millions de voix au suffrage universel.
Quelles sont vos attentes donc pour cette élection présidentielle?
J'ai des attentes toutes simples. Je pense que ce pays, les États-Unis d'Amérique, qui est aussi mon pays d'adoption en ce moment, j'ai vu depuis presque 17 ans maintenant, ce pays a, je pense, le souci fondamental d'être une terre d'accueil, une terre d'asile, beaucoup de citoyens de ce monde-là. Et donc, c'est cet esprit-là que nous aimons de l'Amérique. Cette idée-là que n'importe qui vient dans ce pays-là, quelle que soit votre religion, appartenance ethnique, spirituelle, vous avez la chance de vous intégrer et de faire partie aussi du succès, du progrès de cette nation-là. Et donc, en fait, c'est cela qui me tient à cœur. Ce bien fondamental, cette vertu fondamentale de citoyenneté, d'appartenance à un groupe, à une nation démocratique, libre, que nous voulons tous pour ce pays-là. Donc, c'est pour cela que c'est avec un grand, grand plaisir cette année que j'ai voté. Plus que jamais, je pense, dans ma vie de citoyenne, j'ai exercé ce droit fondamental. Et donc, vraiment, c'est avec beaucoup d'espoir, beaucoup de foi que nous espérons que ce soir, le candidat qu'on a choisi vraiment pourra être élevé au plus haut poste politique de cette grande terre, qui sont les États-Unis d'Amérique.
À New York, nous retrouvons Didi Idiko. Bonsoir, vous vous trouvez précisément à Brooklyn, n'est-ce pas?
Bonjour Eric, je me trouve à Brooklyn, l'une des 5 subdivisions administratives de la ville de New York, à l'école publique numéro 22, transformée pour l'occasion en bureau de vote. Les électeurs arrivent petit à petit, l'idée ici en raison de la pandémie est de ne pas créer d'attroupement. Et de façon générale, dans l'État de New York, environ un électeur sur 5 a voté en personne pendant la période de vote anticipé qui a duré 9 jours ici, soit 2,5 millions de personnes. C'est d'ailleurs la première fois que l'État de New York utilise ce système lors d'une élection présidentielle. Cela représente environ 18% des 13,5 millions d'électeurs inscrits dans l'État de New York. À ce nombre, il faut aussi ajouter plus d'un million de personnes ayant voté par correspondance, mais tous les suffrages n'ont pas encore été dépouillés. Ce matin, à l'ouverture des bureaux de vote, 26% des New-Yorkais avaient déjà voté. Il faut savoir que New York est un État dominé par les démocrates. Les analystes prédisent donc ici une franche victoire de Joe Biden. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas savoir, car à New York, les premiers bureaux de vote ferment à 21h. Dans cette ville qui a été l'épicentre de la pandémie de coronavirus et où les mesures de confinement ont été très strictes, l'inquiétude par rapport au Covid-19 est vraiment palpable, notamment avec le nombre d'infections qui grimpe à nouveau ces jours-ci. À Manhattan, les vitres des magasins sont barricadées, les autorités et les commerçants new-yorkais craignent des violences à l'annonce des résultats ou dans la nuit lorsqu'une tendance va se dégager. Mais pour l'instant, les rues sont calmes. Voici donc la situation à New York.
Toujours à New York, un témoignage de Blaise Sorgho, citoyen américain d'origine burkinabé, joint par Yacouba Ouédraogo.
Moi, c'est Blaise Sorgho, et citoyen américain d'origine burkinabé. Et je suis en train de faire le rang présentement pour voter. Et pour cette élection de 2020, et aujourd'hui même, et je suis impatient de voter le président Biden. Je vais voter pour la première fois démocrate. Et de ma culture, je suis républicain, mais cette fois-ci, je vais voter démocrate. Et à cause de la politique de l'immigration du président sortant Donald Trump, et une politique qui est vraiment hostile envers les immigrants, envers nos frères et sœurs. Et nous l'avons ressenti en tant que paralégal dans les formulaires de demande d'asile où beaucoup d'éléments sont mis en œuvre pour nuire à l'immigration, pour nuire au changement de statut des immigrants. Voilà, merci et bonne journée à vous.
En Pennsylvanie, nous retrouvons le docteur Jean-Claude G. Ereke. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Vous avez voté, votre sentiment?
Bon, moi, j'ai voté il y a 4 jours. C'est-à-dire, j'ai rempli mon bulletin et je suis allé le déposer dans une urne à l'intérieur d'une école. Pardon. Et puis, je crois, 2 jours après, on m'a dit que mon vote avait été reçu. Alors, ce matin, j'ai été un peu dans la ville, là, et j'ai vu de longues files devant les bibliothèques, et également dans les écoles. Donc, je pense que beaucoup de gens sont allés voter en personne, comme on dit.
Oui, la Pennsylvanie, un état clé qui est très suivi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il y a aussi le vote par correspondance. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont utilisé ce moyen-là pour voter. Mais comme vous le savez, c'est l'un des enjeux de cette élection parce que alors que le vote par correspondance est plébiscité par les électeurs américains, le président sortant semble ne pas y être beaucoup favorable.
Il y a eu effectivement une bataille juridique autour de ça qui a finalement tranché. Le dépouillement va se faire. On va recevoir ces bulletins, je pense, même 3 jours après, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Alors, quand je parle avec les gens, surtout les Nord-Américains ou les Africains, mais ils font valoir que cette élection est importante parce que les violences policières, par exemple, se sont multipliées sous l'administration Trump. Hein, vous vous rappelez le meurtre, n'est-ce pas, à Minneapolis de George Floyd. On a cru qu'après ce meurtre, les Noirs seraient mieux traités. Malheureusement, ici en Pennsylvanie et précisément à Philadelphie, il y a une semaine, un autiste noir américain a été abattu. Il a été criblé de plusieurs balles. Il a été assassiné par des policiers. Et donc, ça a créé des émeutes dans la ville. Ouais, donc, c'est un problème vraiment qui est réel. Et beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains, quand ils pensent à ça, ils n'ont pas vraiment l'intention d'accorder leur vote au président sortant.
Mais il y a aussi des électeurs qui sont excités pour élire le président Trump.
Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que moi, les Africains justement que j'ai rencontrés, enfin certains qui sont pro-Trump disent que lorsque les démocrates étaient au pouvoir, sous Obama par exemple, c'est sous Obama que Kadhafi a été tué, assassiné. Et c'est sous le même Obama que, par exemple, Sarkozy est allé faire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le bombardement de la résidence du président. Donc c'est avec le OK d'Obama que cela a été fait. Et donc les gens disent qu'on n'a pas vu de telles choses avec Trump. Et les gens disent aussi que, par exemple, quand Obama est allé en Afrique, au Sénégal, au Ghana et au Kenya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plaidé le mariage gay, comme si c'était la priorité des Africains. Vous voyez? Et les gens ne voient pas une telle chose avec Trump. Et donc, c'est un peu les raisons pour lesquelles beaucoup d'Africains préfèrent voter Trump.
Gardez la ligne, Jean-Claude. On va revenir vers vous, vers la fin de cette édition. Nous allons maintenant dans la Iowa, un état pivot où la diaspora africaine se mobilise. Abdourahmane Dia a joint Claudine Matei, américaine d'origine togolaise.
Effectivement, je viens de voter tôt ce matin. Les bureaux de vote étaient ouverts à partir de 7h du matin et ils seront fermés ce soir à 21h. Et comme d'habitude, beaucoup préfèrent voter tôt le matin et c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai voté ce matin à 7h15. J'étais vraiment surprise parce qu'il y avait un très grand nombre et j'ai beaucoup apprécié qu'ils ont respecté les mesures barrières et on était tous à 6 feet et tout le monde doit porter son masque et voilà, oui, j'ai voté ce matin, je suis vraiment contente que ça s'est bien passé.
Donc vous préférez voter le jour du scrutin plutôt que de voter par anticipation? Y a-t-il une raison particulière? Est-ce que c'est l'ambiance même du vote le jour du scrutin ou...
Oui, je préfère aller moi-même voter, voir ce qui se passe. Et ça aussi me donne non seulement l'opportunité de voir comment les choses se passent, l'ambiance et tout, puisque j'avais eu à travailler dans les bureaux de vote avant, juste pour savoir comment les choses se passent ici au niveau des États-Unis. Et oui, je préfère aller voter. Et le coronavirus ne va pas m'empêcher de sortir. Et l'essentiel, c'est de prendre les mesures barrières.
L'Iowa où vous vivez est un état pivot et un état important malgré ces 6 grands électeurs. Hein. Parlez-nous un peu du vote dans l'Iowa.
Je vis dans l'Iowa qui est un état caucus. Pas plus tard que deux jours, il y a le président Donald Trump qui était ici le samedi passé. Et il y a aussi son homologue, Joe Biden. Les deux étaient ici à quelques jours des élections. Et ce qui prouve encore plus que l'état d'Iowa est un état décideur.
Mais pour terminer, parlez-nous rapidement du vote des Américains qui sont d'origine africaine, comme vous.
Oui, effectivement, je parlerai des Africains et j'ai toujours l'habitude de parler à nos frères et sœurs africains, de toujours voter, surtout ceux qui ont le passeport américain, de tout faire pour voter. Je les encourage à le faire. C'est très important parce que beaucoup ignorent leur puissance, le poids de leur voix. Vous savez, nous avons trop de problèmes en Afrique. Et souvent, on se lance dans des lobbies, on demande des aides aux gens. Mais en échange, nous devons aussi apporter quelque chose. Et c'est plus facile d'approcher nos élus. Et comme je le fais d'habitude, d'approcher de nos élus pour savoir ce qu'ils font. Alors, quel est leur plan pour nous, les immigrants, non pas seulement les Africains-Américains ici, mais nous, les immigrants spécialement africains.
Voilà, Claude Mattei, jointe dans l'Iowa par Abdourahmane Dieh.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La participation s'annonce historiquement élevée avec près de 100 millions d'électeurs qui ont déjà voté par anticipation avant aujourd'hui par courrier ou en personne, soit plus de 70% du nombre d'électeurs total de 2016. Professeur Samba Gadjigo, s'agit-il d'une présidentielle particulière?
Pardon, je ne vous ai pas bien entendu, excusez-moi.
Ce record de participation, est-ce que il symbolise une présidentielle particulière, selon vous?
Ben, écoutez, oui, moi je suis là quand même depuis l'élection. Je suis arrivé une année après l'élection de Reagan, donc je suis arrivé ici depuis 1981-82. Je n'ai jamais vu autant une telle mobilisation en fait, que les gens aillent voter aussi massivement, près de 100 millions de personnes ont déjà voté. Je crois que ça montre quand même que tout le monde est de beaucoup plus conscient maintenant des enjeux de cette élection-là. Et peut-être avec une touche d'exagération, on dit que quand même que nous sommes dans une situation qui est plutôt existentielle en ce moment. Vous connaissez très bien la phrase de Michelle Obama, « Vote as if your life depended on it ». C'est-à-dire que les gens ont le sentiment que ce n'est pas tout simplement le remplacement d'un président par un autre, mais que la démocratie en dépend, que la stabilité des États-Unis et la stabilité du monde en dépendent. Donc voilà, à mon avis, l'une des raisons qui ont causé ce vote massif par anticipation avant même la date d'aujourd'hui.
Ce soir, dans un premier temps, tous les regards seront braqués sur la Floride, l'un des États pivots les plus célèbres, n'est-ce pas?
Oui, parce que bon, d'abord la Floride, c'est un État quand même qui a beaucoup de grands électeurs, c'est-à-dire 29 grands électeurs. Après la Californie qui en a 55. Comme vous le savez, je ne vous apprends absolument rien. Ce n'est pas le vote populaire en fait qui détermine le gagnant de cette présidentielle, c'est le nombre de grands électeurs. Donc oui, il y a une ruée vers l'or, ou vers le soleil, ou vers la Floride, parce que d'abord il y a ces grands électeurs-là, et je crois que de mémoire d'Américains, aucun républicain, par exemple, n'a pu gagner les élections sans avoir gagné la Floride. Donc oui, c'est un terrain de compétition entre les démocrates et les républicains aujourd'hui, ce qui est expliqué un peu aussi par la présence massive de latino-américains qui se trouvent en Floride.
Oui, vous parlez à ce système du collège électoral. C'est ce que nous dit aussi Aristide Sidibé, journaliste basé à Houston dans le Texas. Il a été joint par Modibo Dembélé.
L'Amérique est un système fédéral. Il y a 50 États. Le président et son vice-président sont élus de manière indirecte par un système de collège électoral qui est basé sur les États ayant un total de 538 collèges électoraux. Pour gagner américaine, il te faut 270. Donc, ce n'est pas le système populaire qui élit le président. Chaque État a des collèges électoraux et c'est en fonction de cela que tu deviens président. La première, c'était quand le vice-président Al Gore avait gagné le système de populaire. George Bush a gagné le collège électoral. Et en 2016, l'actuel président Donald Trump a gagné le système électoral. Hillary Clinton a gagné le système populaire. Je pense qu'elle a eu plus de 3 millions de votes que l'actuel président. Et d'ailleurs, pour expliquer cela, ça fait la sixième élection présidentielle aux États-Unis où c'est les démocrates qui gagnent le vote populaire.
Et pourquoi les Américains ont préféré le système du collège électoral au système du vote populaire?
Bon, ça c'est une question qui est au fondement même de la création de l'Amérique. Les États, comme je l'ai dit, il y a 50 États. À l'époque, il n'y avait pas 50 États. C'était pour donner un poids proportionnel qui ont été à la fondation de l'Amérique. D'aucuns disent que en réalité, c'est la conséquence de l'esclavage aux États-Unis, c'est-à-dire pour donner certains États du Sud et certains États du Nord avec des poids différents. Mais en réalité, quand tu regardes aujourd'hui, c'est en fonction de la population de l'État. Les 538 sont répartis sur la base du recensement électoral qui se fait chaque 10 ans aux États-Unis. Donc, ce qui fait, qui détermine le collège électoral de chaque État.
Pour l'emporter, un candidat n'a pas besoin d'être majoritaire en voix au niveau national. Il doit absolument gagner la majorité d'au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des États. Les explications de Bagassikoura.
Voici comment ça marche. Les quelques 230 millions d'électeurs votent pour élire 538 grands électeurs. Ces grands électeurs, à leur tour, vont se réunir le 14 décembre pour élire le président des États-Unis. Et ensuite, c'est au tour du Congrès de déclarer officiellement le vainqueur le 6 janvier, une sorte de certification de l'élection. Outre le collège électoral, cette certification du vainqueur de l'élection présidentielle implique le Sénat, la Chambre des représentants et les archives nationales. Ce processus de 4 mois est le résultat d'un compromis entre les pères fondateurs qui n'avaient pas confiance que les électeurs pouvaient par eux-mêmes choisir un bon dirigeant. Ils ne croyaient pas que le peuple américain devrait choisir directement le président et le vice-président, mais ils ne voulaient pas non plus donner au Congrès seul le pouvoir de sélection, affirme l'universitaire Amy Dassé, directrice exécutive de l'Institut d'études politiques Ciné à American University. Cette année, les experts électoraux prévoient que le dépouillement des bulletins de vote prendra plus de temps en raison de la pandémie de COVID-19 et du nombre accru d'électeurs qui ont voté par la poste. Une fois que les 50 États plus le district de Columbia ont compté tous les bulletins de vote, chaque gouverneur d'État dresse une liste électorale. Des copies de cette liste, connues sous le nom de certificat de vérification, sont soumises à l'archiviste des États-Unis, responsable des archives nationales. Ces grands électeurs se réunissent ensuite dans leur capitale d'État pour voter officiellement pour le président et le vice-président. Cela doit avoir lieu le premier lundi après le deuxième mercredi de décembre. Cette année, cette date tombe le 14 décembre. Les électeurs de chacun des États remplissent des certificats de vote et les envoie au Sénat américain, aux archives nationales et aux représentants de l'État. Une fois que cela est fait, le collège électoral n'a plus de fonction jusqu'à la prochaine élection présidentielle. La dernière étape de ce processus a lieu le 6 janvier 2021, lorsque le Congrès se réunit pour compter les votes électoraux et certifier officiellement le vainqueur. Ce processus est généralement cérémonial, mais il peut y avoir des objections, comme en 1969 et 2005, mais la Chambre et le Sénat avaient à l'époque rejeté les objections et les votes en question avaient été comptés.
L'accumulation record de votes par courrier qui, dans certains États, pourront affluer jusqu'à plusieurs jours après mardi, risque de compliquer le dépouillement, voire retarder l'annonce d'un vainqueur si le résultat est serré. Professeur Samba, si le vainqueur n'est pas connu ce soir, on a vu ça dans certaines élections précédentes.
Ah oui, ce n'est pas la première fois. On se rappelle très bien la compétition entre Bush et Gore, n'est-ce pas? Ça a pris des semaines, pour ne pas dire des mois, quand il y a eu ce litige là au niveau de la Floride. Donc en fait, je crois que les gens s'attendent à obtenir les résultats la même nuit, mais les résultats que nous avons, ce sont tout simplement des projections. Et comme mon prédécesseur vient de le dire, il y a tout un processus de détermination du vainqueur de ces élections-là. Donc oui, il n'est pas du tout inhabituel que nous attendions quelques jours ou quelques semaines pour avoir le résultat définitif. Bon, cette année-ci, bien sûr, ce n'est pas une année normale. On sait que chacun des partis a toute une armée d'avocats qui attendent, parce qu'il est certain, que Donald Trump va tout remettre en question, comme il l'a déjà dit, comme il l'a déjà menacé. Donc préparons-nous. Je suis assez optimiste que l'issue sera positive, si vous voulez, mais je crois que le processus sera un peu plus compliqué que les années précédentes.
Jean-Claude Jereke, selon les US Elections Project, qui recense le vote anticipé État par État, plus de 2,4 millions d'électeurs sur plus de 9 millions d'électeurs enregistrés cette année en Pennsylvanie ont voté par anticipation, soit 10 fois plus qu'en 2016. Mais la Pennsylvanie est l'un de ces États où ces votes ne pourront pas être dépouillés avant ce soir. Au moins 5 comtés ont même annoncé qu'ils ne commenceraient que mercredi. Comment vous le présentez au niveau des électeurs?
Bon, mais les gens, ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre. Mais ils espèrent que leur vote sera pris en compte. C'est surtout ça, quoi, que j'ai le sentiment qui prévaut chez les gens. Donc, ils ne sont pas angoissés, mais ils souhaitent que leur vote soit pris en compte.
Oui, des commerces dans certaines villes, dont New York et Washington, sont barricadés par crainte de manifestations. Comment ça se passe chez vous? Tout est calme?
Oui, chez nous, il y a des boutiques, effectivement, qui se protègent, mais pas à cause de l'issue des élections. C'est plutôt, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est à cause des émeutes qui ont été déclenché après le meurtre du noir américain Wallace Walter. Et donc, beaucoup de magasins ont eu peur d'être pillés. Et donc, se protègent. Mais ça n'a rien à voir avec l'élection.
En 20 secondes, en tant qu'Africain, quelle est la leçon que vous tirez de cette présidentielle américaine?
Bon. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des partisans soit de Trump, soit de Biden. Mais à côté de ces deux groupes-là, il y a une catégorie d'Africains, et disons d'Américains d'origine africaine, qui sont indifférents, qui donc refusent de voter. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ce soit les démocrates ou les républicains, la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique est la même. C'est-à-dire que l'Amérique fait donc du business en Afrique, mais elle ne sait rien, par exemple, pour contrer le terrorisme qui empêche l'Afrique de se développer.
Samba Gadjigo, les leçons à tirer en 15 secondes?
Oui, si vous voulez, oui, peut-être que oui, l'attitude du prochain président à l'égard de l'Afrique compte beaucoup, mais avant tout, je dis aux États-Unis. Donc, c'est la politique qui a la même politique ici aux États-Unis.
Merci à Samba Gadi.